Sud Radio Invino, midi 30, 13h, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas, nous sommes à Paris, en 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Vichy, par exemple, tiens, sur 92.4, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Pierre Chancel, vigneron au cœur du Mont Ventoux, une bien belle région. Le Vino Quiz pour gagner un coffret Divine et Siver, œnologue expert de chef et sommelier en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, comme hier, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Ça va, vous avez passé un bon samedi soir?
Ah écoutez, c'était génial.
Vous avez festoyé avec modération aussi?
Alors, j'ai festoyé avec un tout petit peu moins de modération que d'habitude parce que tous les participants dormaient sur place. Donc du coup,
donc
on
vous avez pris un demi-verre d'eau supplémentaire. Et vous,
voilà.
Philippe Orbach, meilleur sommelier du monde et président du bistrot propriétaire aussi, du bistrot du sommelier à Paris et boulevard Haussmann. Ça,
oui, oui,
matinée
non.
Sympa?
Matinée sympa, soirée sympathique. J'étais d'ailleurs chez Hélène Piau, elle ne s'en rappelle pas.
On avait dit qu'on ne le disait pas.
Ça ne nous regarde pas. Alors, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Aurélien Piffaut, président du directoire du groupe Piffaut Vins et Domaines en Bourgogne. Bonjour Aurélien.
Bonjour à tous.
Vous êtes la sixième génération, quoi.
C'est ça.
Il y a un poids d'enfer, non?
C'est une histoire familiale.
Ouais. Racontez-nous. Alors, c'était qui la première? Quel était le prénom du premier?
Le premier, la première était Marie Ambal, fondatrice de la maison, on va dire, principale. En 1898.
Parce que là, vous avez changé récemment donc, le nom, si je puis dire. Hein. C'était Veuve Ambal, et maintenant, vous avez changé le nom de l'entité générale.
Tout à fait. On a souhaité parler un peu plus de... rappeler l'aspect familial, et puis rappeler aussi que
il n'y a pas que des bulles chez vous.
Il n'y a pas que des bulles chez nous. Ça, c'est un point encore très important, mais que ce soit aujourd'hui ou même dans le passé, on a aussi fait des vins de Bourgogne. Voilà, on en fait un peu plus tous les jours aujourd'hui, des vins tranquilles de l'ensemble de la Bourgogne.
C'est énorme, vous avez combien d'hectares au total?
270 hectares.
Ouais. Philippe Forbach, pour la Bourgogne, c'est monstrueux. Hein.
On va dire ça comme ça.
Ouais, c'est vrai,
le prix de l'hectare, c'est pas mal. Effectivement, et puis il faut s'en occuper au-delà de l'aspect économique. Il faut gérer tout ça. Quoi.
Ouais, il faut être tout ça à deux alors.
Bon, <c'est... rire> oui, et quelques autres personnes aussi un peu.
Hélène?
Donc effectivement, c'est cette nouvelle identité du groupe Veuve Ambal qui est devenue famille Piffaut Vins et Domaines. Donc en effet, ça annonce voilà bien les choses. Vous avez parlé du passé, mais en fait c'est très important pour l'avenir aussi parce que vous êtes la sixième génération. Votre papa Eric c'est la cinquième, mais j'imagine que avec ce changement de nom, vous envisagez une très longue suite.
J'espère. Aujourd'hui, il n'y a pas de pression sur les générations futures. On va déjà essayer à mon échelle de perpétuer l'entreprise et le développement de l'entreprise. Et puis, on verra par la suite. Voilà.
Par la suite. Donc, effectivement, vous disiez que tout avait commencé en 1820 avec Marie Ambal. En fait, 1820, c'est le moment où la famille Ninot crée une maison de vin fin en Bourgogne. Et puis, la sœur de Charles Ninot dit à un moment donné, moi, je ferais bien autre chose. Et son frère lui dit, ok, allez, t'es veuve, t'as épousé monsieur Ambal, et veuve Ambal. On a démarré comme ça.
Dans les bulles, tout à fait. Lui était négociant en vin classique et il lui a dit, écoute, il y a des opportunités dans les bulles. Et voilà, donc c'est une veuve fondatrice d'une marque de vin effervescent, moins connu qu'une autre veuve, mais on essaye de...
Mais en général, veuve et bulle, j'ai remarqué, ça marche bien.
Malheureusement pour les hommes.
Désolée. Donc effectivement, très rapidement, l'activité s'est développée. Aujourd'hui, vous êtes, on le disait, un peu partout en Bourgogne, côte chalonnaise, côte de Nuit, côte de Beaune. Donc si on fait un petit peu le tour, en dehors de veuve en balle, racontez-nous. Alors on a le château de Saint-Aubin, Prosper Mofou.
Alors, on a des maisons, on va dire, historiques de Bourgogne. La maison Prosper Mofou, qui est une maison de négoce classique créée en 1860. La maison André Delorme, qui est plutôt spécialiste d'écrément de Bourgogne et des vins de la côte chalonnaise, basée à Ruilly.
Tout ça, ça a été acheté au fur et à mesure?
Au fur et à mesure, oui.
Donc, ouais. Croissance externe.
Croissance externe, voilà, avec la dernière qui a été le château de Saint-Aubin en 2015. Avec là un objectif d'acquisition de foncier viticole prestigieux sur la Côte des Blancs, en Puligny, Chassagne, Meursault, Saint-Aubin et Criot-Bâtard. Mmh.
Alors, grosse activité, grosse actualité sur le château de Saint-Aubin, parce qu'il y a eu 2 années de rénovation complète, et puis cet été, le château a ouvert ses portes au public.
Voilà, avec un gros projet non touristique, puisqu'on a refait, donc on a refait l'intérieur du château, on a créé une cuverie et un lieu d'accueil pour les clients avec des salles de dégustation et un parcours dans les vignes.
Ah, ils doivent être jaloux, les voisins, la Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, il n'y en a plus que pour Saint-Aubin, là, maintenant.
Il y avait quelques domaines à Saint-Aubin, mais ça restait encore confidentiel. C'est un village, pour moi, qui a un potentiel très, très intéressant, avec des terroirs très proches de Puligny et Chassagne, qui restent encore un petit peu plus abordables que ses voisins un peu plus prestigieux. Et on est là pour essayer de faire découvrir... l'appellation.
Alors, puisqu'on parle d'abordable, ce qu'il y a de sympa, si on vient vous voir au château de Saint-Aubin, c'est que les premières expériences de dégustation commencent autour de 15 euros. Quand on connaît le prix des vins de Bourgogne,
oui, c'est, bon prix, ça.
C'est plutôt abordable de découvrir pour 15 euros. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 15 euros si on vient chez vous?
Vous avez 4 vins.
Corton. Non, c'est pas ça. Morceau.
Non, quand même. Après, y a toujours le problématique du coût du vin. Mais on a une dégustation autour de villages de la côte de Beaune, sur des villages peut-être moins prestigieux que Chassagne, Puligny, Pommard, mais au moins une découverte. Une introduction à la Bourgogne sur des vins régionaux comme des Hautes-Côtes où il y a des terroirs très sympas aussi. Voilà, et puis après, pour accéder à des appellations un peu plus prestigieuses, il y a d'autres offres aussi de dégustation.
Et puis alors là, le problème de la modération ne se pose pas puisqu'on peut dormir sur place, il y a des chambres d'hôtes.
Ouais. Voilà, aujourd'hui il y a quatre chambres. C'est un départ. Après, l'objectif est de rester dans quelque chose à taille humaine, à l'échelle de la Bourgogne.
Et cet été, il y avait beaucoup de monde qui est venu dire bonjour?
Alors cet été, on a fait ce qu'on appelle un soft opening. Donc on a été on n'a pas fait plus de promotion que ça et on a essayé de voir un peu comment ça se passait. Mais ça s'est plutôt très bien passé.
Beaucoup de Français ou il y avait un peu d'étrangers?
Non, des étrangers, on va dire nos voisins
belges, allemands,
suisses, allemands. Mais sans avoir fait une promotion folle, on est plutôt très content des premiers retours. Et puis après, ce qui est important, c'est les retours des clients derrière de l'expérience. Et pour l'instant, on a l'impression de ne pas trop se tromper. Donc, il y a encore quelques petites choses à améliorer parce qu'on a vraiment ouvert juin. Voilà. On n'a pas eu de mois de test sur des périodes plus calmes. Voilà.
Oui, en même temps, les périodes calmes en ce moment en tourisme, elles n'existent pas.
Oui.
Ou elles sont trop calmes. Enfin bref, en tout cas, les périodes optimales n'existent pas. Le no-tourisme dans le groupe, de toute façon, c'est quelque chose de très important parce que chez Veuve en Balle comme chez André Delorme, il y a une grosse offre no-tourisme. Je pense notamment à l'atelier de la bulle chez Veuve en Balle.
Tout à fait. En fait, mon père, fin des années 90, avait fait un voyage aux États-Unis. Enfin, on avait fait un voyage aux États-Unis. Il avait été...
marqué
par la Napa Valley et l'offre et la manière dont les Américains faisaient découvrir le vin et la qualité de l'accueil. Et comme on a dû construire un nouveau bâtiment pour la maison Veuve en Balle début des années 2000, il avait dans le projet de construction d'intégrer une offre no touristique et de faire découvrir en fait la maison et la production de créments. Donc ça a été le premier pas dans le no tourisme. Je pense qu'on était pas nombreux encore à cette époque-là à faire de l'onotourisme en Bourgogne. Et puis quand on a racheté la maison André Delorme aussi, l'objectif d'avoir un lieu de vente et un lieu de découverte. Donc c'est vraiment un élément important de la stratégie de l'entreprise.
Philippe Forbach, la route des vins en France, pourtant, c'était entre l'Alsace et la Bourgogne. Ça se dispute la première, quoi.
C'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est dans ce coin-là que ça a démarré. Puis ça se développe de plus en plus, quand même. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Il n'y a pas un projet viticole qui ne prend pas en considération aujourd'hui le fait de pouvoir accueillir du public, d'organiser, de valoriser finalement à la fois son terroir, son territoire, ses savoir-faire. Et c'est vrai que l'exemple des États-Unis, que j'ai eu l'occasion de partager aussi dans les années 80, est un vrai vrai choc pour nous parce que on avait voilà, on pouvait déguster au bout de chez.
Il y avait que des gens sympas, souriants, ils parlaient anglais eux, contents de nous voir, contents de nous vendre des bouteilles.
Absolument.
Avec la banane tout le temps.
Et puis il y avait des produits dérivés, on pouvait acheter autre,
un bob,
on pouvait acheter oui, plein de choses,
un tire-bouchon,
garder des souvenirs, des plein de choses autour effectivement du produit fédérateur et cristallisant qui était le vin.
On en est loin de certains vignerons de certaines régions il y a très très longtemps qui disaient non, t'as pas la peine de taper, il n'y a rien à vendre, c'est fini. Là, c'était quand même très différent.
Alors, il y en a encore.
Ça arrive toujours. On a la liste, on a les noms.
J'ai essayé d'être positif. Quelques noms, allons jusqu'au bout, Philippe. C'est même pas la peine de sonner, là.
C'est qu'il y a des endroits où c'est pas du tout leur philosophie.
Où ils n'ont rien à vendre du tout.
Force est de constater, en tout cas, que c'est de plus en plus le cas où on est accueilli. Il y a une vraie appétence du consommateur pour aller au-delà d'une simple visite dans les rangs de vignes ou d'avoir un coin de barrique pour déguster. Ouais. Voilà, on veut profiter un peu plus d'une expérience.
C'est important de mettre de l'humain derrière une bouteille, de mettre... Et ça,
Aurélien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, parce que là, ça marche bien côté bulle, ça marche bien sans bulle, vous êtes hyper sympa.
Le développement du site œnotouristique et de Saint-Aubin et
puis un grand millésime 2021 aussi quand même, hein. Il est un peu trop tôt pour en parler, mais bon.
Pour l'instant, il est un peu tôt pour en parler, mais ça se présente plutôt bien.
Merci beaucoup Aurélien Piffaut, merci également Hélène Pio, Philippe Forbach. On se retrouve dans un instant au Baravin du caviste Nicolas Place de la Madeleine pour le Vino Quiz et pour gagner des coffrets Divine et Siver, chef et sommelier. À tout de suite.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook, Invino, notre compte Instagram, Invino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons chouchous favoris. Philippe Forbach, vous qui êtes notre chouchou également. C'est l'heure du Vino Quiz, Philippe.
Et oui, je vous en rappelle traditionnellement le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Dites donc cette semaine, un coffret Divine et six verres œnologue expert de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table. Rien que ça. Voici la question du week-end. Quel est le nom du domaine viticole en appellation Côte de Bourg appartenant à Muriel et Élie Corporandi ? Réponse A, le moulin à café. Réponse B, le moulin de la Marzelle. Réponse C, le moulin à poivre. Pour y répondre et gagner, vous le souhaitez, hein, le coffret Divine et Siver, œnologue expert de la marque Chef et Sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz.
Merci beaucoup Philippe Forbach, Invino Sud Radio accueille maintenant par téléphone Pierre Chancel. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Ah, vous êtes situé dans une région qui est juste magnifique, hein, au cœur du Mont Ventoux. Racontez-nous votre histoire de vin, vous avez toujours été vigneron ?
Oui, très bonne question. Non, pas du tout. En fait, je suis un néo-vigneron de juste 65 ans maintenant. Et on a créé ce domaine avec ma femme il y a 3 ans et demi à peu près.
D'accord.
Et auparavant, nul n'est parfait. Donc, je dirigeais la division diabète de Sanofi. Voilà. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps dans un avion sur des temps longs, là encore, comme la vigne, mais sur d'autres projets. Et à l'âge de la retraite, et on fait mon temps chez Sanofi. Du coup, avec ma femme, on se sentait suffisamment d'énergie pour mener un projet, non pas faire autre chose. Donc un projet qui fasse sens avec une logique de durabilité, de transmission. Et comme on est tous les deux passionnés de vin, donc on s'est lancé dans cette aventure. Alors fou ou sage, j'en sais rien. En tout cas,
il faut un petit peu de sous avant de démarrer tout ça quand même, hein, n'est-ce pas Pierre? Alors dites-nous, pourquoi le Mont Ventoux? C'est un peu le hasard? Vous avez cherché dans d'autres régions? Vous étiez ciblé naturellement sur cette belle région?
Alors, ma femme est d'origine marseillaise, donc on cherchait le dans le sud. Et en fait, on a fait l'inverse de ce qu'on avait en tête, c'est-à-dire entrer dans un domaine qui fonctionnait déjà. Il n'y a rien qui nous convenait parce qu'on voulait surreprésenter, entre guillemets, la part des blancs par rapport au rouge. Et donc, il y a beaucoup de rouge, 95% si on accepte le rosé par rapport au blanc dans les Côtes-du-Rhône ou le Vaucluse. Et là, sur le Ventoux, on est tombé amoureux de cet endroit, en ayant visité une dizaine de domaines auparavant, et parce qu'en fait il y avait tout à faire, mais on pouvait réellement surgreffer, planter nos blancs, restructurer nos rouges et mener le projet qui nous convenait.
Donc ça, c'était quand l'achat?
C'était fin 2017.
Fin 2017. Hélène?
Alors effectivement, ce domaine, alors il n'y a pas que de la vigne, hein, puisque sur vos 30 hectares, il y a 12 hectares de bois pour 14 de vigne, et puis une très très vieille bastide, effectivement, vous en parliez. Et vous y avez fait des choses inhabituelles, puisque vous le disiez, vous êtes jeune vigneron, donc vous n'avez peur de rien, c'est ce qui vous caractérise, c'est l'avantage hein, de démarrer. Et c'est comme ça que vous avez décidé notamment... passionné par les blancs, d'y planter des cépages chenin, uniblanc, tout un tas de choses qui ne sont pas forcément tout le temps dans la région. C'est quoi cette passion pour les blancs? Vous n'aimez pas les rouges?
C'est une bonne question. Si, on aime les rouges, mais on aime les blancs aussi. Et donc, il y avait à la fois ce... je dirais travailler sur ce qu'on aime. Donc, on aime les blancs tendus, on aime les blancs avec de la profondeur. Et donc, il y avait la possibilité sur ce terroir-là de sableux, un peu argileux, très drainant, de faire quelque chose qui pouvait être magnifique, quoi. Et aussi de se différencier tout bêtement aussi. Hein. Alors pour les rouges, pour le coup, on a la chance d'avoir des vieux cépages, donc on n'a rien touché, donc Syrah, Grenache, Carignan, Saint-Saud, donc on a des vieux Carignan de 64 avant les clones, on a quelques vieilles Syrah, des vieux Grenache, donc ça c'est super, et donc bien sûr on fait des rouges, mais on voulait quand même marquer et amener notre patte sur ce terroir magnifique pour des blancs.
Alors, ils ne viennent pas de n'importe où, vos blancs, hein, vos cépages blancs. Le Carignan blanc, c'est quand même Roque d'Anglade, la Roussanne Guifarge. C'est sympa les endroits où vous faites vos courses, vous.
Alors bon, je ne sais pas si ça se traduit techniquement après par une super qualité du vin, mais on s'est dit, bon, tant qu'à faire et tant qu'à planter ou à surgreffer, autant aller prendre du raisin chez les bons, quoi. Et au minimum, on aura fait ça, quoi. Voilà
donc les grenaches, c'est le pas de l'escalette, enfin que des choix de domaine, effectivement.
Grenache blanc et grenache gris, voilà, c'est ça. Ouais.
C'est ça. Et alors, les copains, ils vous ont dit, vas-y, arrache ce que tu veux, replante chez toi, serre-toi. Ça se passe comment dans ces cas-là, quand on va voir d'un autre domaine en disant, je voudrais bien les raisins de chez toi, ça marche comment?
Oui, alors bon, ça c'est plutôt le réseau de... Alors ça marche par... c'est plutôt le réseau d'opportunités, d'amis, de copains. Donc en l'occurrence, Roque d'Anglade... Dans notre projet, on s'est lancé sur ce projet, mais on a recruté quelqu'un qui... Moi, j'ai passé un an à Suze-Larousse, viticulture et œnologie, mais c'est pas pour autant qu'on est un vigneron, quoi. Mais au moins, on a les points d'attention. Et donc, on a recruté un jeune bourguignon de 35 ans, Barthélémy Gaulot, qui, lui, avait travaillé 3 ans chez Rémy Pedreno Roque d'Anglade. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu rentrer en contact avec Rémy, qui est un ami, là, maintenant, et ainsi de suite, quoi. Donc, Guy Farge, pareil. Donc, en fait... Non, on n'arrive pas comme ça en disant « bon, tiens, je voudrais des raisins ». La construction, c'est vraiment de la construction, rapide bien sûr, mais et puis en fin de compte, on fait, quand la démarche, la philosophie, quand on va voir les gens, quand on explique, bah, les vignerons sont des gens passionnés en fait, hein, quel que soit leur niveau de notoriété ou même des stars, et ils vous aident tout bêtement.
Oui, ça, c'est la fraternité. Pour terminer, Pierre, la gamme de prix, ça va de combien donc, dans la gamme?
Alors la gamme de prix, c'est on a une cuvée qu'on a appelée numéro 1, donc le blanc, le rouge, le rosé numéro 1, parce que c'était les premiers vins faits au domaine et on les a poursuivis, donc on n'a pas fait 2, 3, 4, on a gardé ça, on a fait changer de millésime, mais là on est autour de, pour les blancs et les rouges, on est à 13,50, donc le D'accord. prix TC public, et pour le rouge, et blancs qui sont élevés en demi-muit, 600 litres et donc un an d'élevage. Donc on les appelait le récit rouge et le récit blanc, tout bêtement, encore en référence à ma femme orthophoniste qui m'aide merveilleusement là-dessus. On est à
19,50. Hélène, vous aviez une dernière question à poser à Pierre.
Oui, alors je voulais savoir comment ça se passe si on vient faire le chemin sensationnel chez vous.
Ah oui, alors le chemin sensationnel, c'est... un événement œnotouristique. Donc, je suis un peu jugé parti, bien sûr, mais l'endroit est fabuleux. Donc, on a.
C'est objectivement magnifique, hein, c'est vrai. Et alors, d'accord. Donc, effectivement, il y a un parcours étonnant à faire chez vous.
un certain nombre de points remarquables. Et donc, le chemin ascensionnel, c'est mailler un parcours dans les vignes, une dégustation dans les vignes, avec des courtes expériences de relaxation sensorielle avec une naturopathe. Et on fait ce chemin, et ensuite on arrive à midi, midi et demi autour de la fontaine, où là, on prend un pet nat de chez nous aussi, et pique-nique de chef étoilé.
Voilà. Oh là, c'est fini. Il n'y a plus d'antidépresseurs en France. Ça y est, suce au laboratoire, mais vous avez quitté, donc vous êtes content. Et on est heureux chez vous, c'est ça, Pierre ?
Absolument.
C'est ça, on déguste sérénité, merci pleine beaucoup. Conscience et grand vin.
Vous avez un site internet peut-être, une adresse à nous communiquer pour prendre enseignement ?
Absolument. Le site internet, c'est leschancel.com.
Leschancel.com.
Merci beaucoup, Pierre, et puis bon courage pour la suite 2021 et 2022. Philippe Aubrac, pour terminer, on a reçu beaucoup de mails concernant je pense que les gens qui étaient au Pays Basque là cet été, ils voudraient quelques bonnes adresses d'Iroulégui. Alors, un petit mot sur l'Iroulégui, puis les quelques bonnes adresses, il n'y en a pas 50 milliards d'ailleurs, que vous pourriez nous conseiller.
Oui, on reste sur le chemin. Oui. Hein, là, c'est le chemin de Saint-Jacques.
Sensationnel.
Mais là, c'est les Saint-Jacques de Compostelle, puisque le vignoble a été créé effectivement à l'époque, au XIe siècle, par les moines de Ronceraux, qui et le vignoble était destiné à fournir du vin pour pouvoir abreuver quelque part les pèlerins. C'est un vignoble qui se situe effectivement au Pays Basque, qui est en appellation contrôlée AOC depuis 70, mais qui existe bien plus avant et qui était AOVDQS, donc de la catégorie inférieure, depuis 1953. C'est un vignoble qui est pas très grand, même si la production aujourd'hui est à peu près de 5500 hectolitres. C'est un vignoble de montagne, hein. C'est pas toujours facile à travailler. On est entre 200 et 400 mètres d'altitude sur le contrefort pyrénéen, au-dessus de Saint-Étienne-de-Baïgorry. On doit d'ailleurs à la cave de Saint-Étienne-de-Baïgorry la sauvegarde du vignoble, parce que franchement, dans les années après la Première Guerre mondiale, je veux dire, le vignoble a quasiment été détruit, oui, abandonné. Oui, oui. Il a fallu effectivement le côté mutualiste et coopératif pour pouvoir s'en sortir. Alors aujourd'hui, on y produit à la fois des rouges, des blancs et des rosés. Il y a les trois couleurs. Hein. En rouge et en cépage rouge, qui servent aussi à faire du rosé, il y a du tanat, le fameux cépage qu'on trouve dans le sud-ouest et notamment dans l'appellation Madiran. Le Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon qu'on trouve plutôt du côté du Bordelais. Et côté blanc, parce que les blancs sont franchement intéressants, moi j'aime faible pour les blancs également de cette appellation, on a du courbu blanc, du petit courbu, mais également le fameux mansingue, petit et gros mansingue qu'on trouve du côté du Jurançon, du côté de Pacherin, qui donne des vins qui minéralisent avec le temps et qui ont une saveur juste assez incroyable et tout à fait particulière. Quelques bons domaines de cette appellation, effectivement. Alors, les noms ne sont pas toujours faciles.
Il y a une star, non ?
Alors, il y a un certain
nombre. Il y a plusieurs stars, mais il y en a quelques-unes. Oui.
Mais la star, ou en tout cas, une des stars, c'est la famille Brana.
Brana, oui. Il faut les visiter là-bas, c'est joli aussi.
Oui, hein. Et puis il y a Erimina également, qui appartient à Jean-Claude Berouette, qui est quand même l'œnologue pendant très longtemps de Pétrus, et c'est son fils aujourd'hui qui s'en occupe. Lui, il a aussi investi dans ces vignes-là. Et puis ensuite, parmi les domaines extrêmement intéressants, il y a le domaine Arexia, il y a le domaine Utizia, il y a Mourgui, il y a Uxbiadella, le domaine Abotia.
Enfin, vous parlez très bien le basque.
Oui,
bravo,
oui,
Philippe.
Oui, voilà. Et on trouve dans le Pays Basque, effectivement, ça tombe de très jolis produits, des truites de torrent juste incroyables.
Vous avez un copain qui produit de la charcuterie, non ?
Oui, Pierre Oteiza, qui est dans la vallée des Alpes, fait des vins magnifiques.
Allez, on l'embrasse.
Fait des charcuteries magnifiques, et notamment son fameux Quintoa, qui est un jambon extrêmement intéressant qu'il faut goûter.
Merci beaucoup, Philippe Aubrac. Merci également à Aurélien Piffaut, Pierre Chancel, Hélène Piau et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent passionnément. En tout cas, on le souhaite hein, chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin du numéro de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook ou le compte Instagram InVino Sud Radio. Vous pouvez également retrouver dès aujourd'hui la première chronique de Christophe Seraglini, professeur de droit et associé au sein du cabinet Freshfields. Il nous parlera des eaux de vie rares japonaises. C'est assez passionnant. On se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, surtout respecter la plus grande démodération.
Sud Radio InVino.